cœur sacré de Jésus, faites que je vous aime et que je vous fasse aimer. Divin cœur de Jésus, je vous offre par le cœur immaculé de Marie les prières, les œuvres, les joies, les souffrances de cette journée, les intentions pour lesquelles vous vous immolez continuellement sur l'autel. Je vous les offre en particulier pour l'intention de ce mois, pour le clergé de l'Église du silence et pour l'élan missionnaire, surtout en Afrique. Chers auditeurs, d'abord une note d'actualité. Al-Azhar, le chef spirituel suprême de l'islam, a déclaré qu'un homme devait avoir plusieurs femmes pour satisfaire, dit-il, ses irrépressibles désirs. En dépit du respect dont jouit ce digne personnage, la presse égyptienne protesta sur le champ. Ainsi, le journal Goumouria, l'organe du gouvernement, riposta en disant que les irrépressibles désirs des femmes étaient eux aussi à prendre en considération et qu'il fallait donc leur permettre d'avoir plusieurs maris. D'autre part, un des collègues du recteur d'Al-Azhar objecta que le Coran, la Bible musulmane, ne tolère la polygamie qu'à condition que le mari traite ses femmes exactement de la même façon. Il faisait ressortir que s'il est possible de donner une situation sociale semblable à plusieurs femmes, on ne saurait leur vouer à toutes le même sentiment. Et enfin, parmi les adversaires de la polygamie, se trouve la propre fille du recteur d'Al-Azhar. Que cette thèse du chef des musulmans est loin de l'Évangile. Ce sera l'une des plus grandes gloires du christianisme que d'avoir relevé la condition jusqu'alors méprisée de la femme. La polygamie, païenne ou musulmane, traite la femme comme la chose de son mari. Pour le Christ, la femme n'est pas une chose, mais une personne au droit inaliénable et sacré. À la fin de ce mois marial, chers auditeurs, écoutons une autre causerie sur les litanies de la Sainte Vierge par le Père Antonio Dragon, jésuite. Il vous explique aujourd'hui cette invocation si consolante. Marie, refuge des pécheurs, priez pour nous.
Voici une invocation qui ne contient aucun mystère. Nous savons si bien ce que c'est qu'un pécheur. Le mot refuge évoque une idée qui parlait plus clairement aux anciens. Chez les Juifs et chez les Romains, il y avait des villes où tout criminel qui y parvenait était en sécurité. Aucun tribunal ne pouvait l'en tirer ni faire son procès. Mais nous commençons nous-mêmes à nous en faire une idée. Pendant la guerre, les civils, surpris par une attaque ennemie, se réfugiaient dans les abris. C'est cette image que nos pères ont utilisée pour montrer aux pécheurs comment Marie peut les protéger, s'ils veulent bien se réfugier sous sa protection. Refuge des pécheurs. Il faut bien s'entendre. Entre Dieu et Marie, il n'y a aucune divergence de vue sur le sort que mérite un pécheur. Il arrive parfois que des mères trop tendres accusent à coups de mensonges et de tricheries la mauvaise conduite d'un fils aimé. Rien de cela en Marie. Si elle apaise la colère de Dieu prête à fondre sur les méchants, si elle le désarme, c'est que Dieu sait bien que les pécheurs que Marie cache sous son manteau, elle va les attendrir, leur changer le cœur, les rendre dignes de rentrer, purifiés dans la grande famille des enfants de Dieu. Et comme il a, pour honorer sa mère, remis toutes les grâces en ses mains pour qu'elle les distribue aux hommes, il est content qu'elles s'en servent pour convertir les pécheurs pour lesquels lui-même il est mort. Jésus est la miséricorde incarnée, sans doute, mais les pauvres pécheurs savent aussi qu'il est le juge des vivants et des morts, et une certaine crainte leur reste au cœur qui les paralyse. Marie, elle, n'est que mère. À Jésus, il faudra bien rendre compte un jour de nos vies misérables. À Marie, non. Elle n'est pas là pour juger, seulement pour nous défendre, et elle plaide toujours en faveur de ses enfants. Sur quoi se base-t-on pour soutenir que Marie reçoit les pécheurs avec tant de bonté? Il suffirait de rappeler qu'elle est leur mère et que c'est Jésus lui-même qui les lui a donnés pour enfants. Elle accueille les pécheurs, ses enfants, parce qu'elle sait qu'ils sont malheureux et qu'elle peut les réconcilier avec Dieu. Elle s'apitoie sur eux dans la mesure où les peines éternelles les menacent. Les mamans aiment d'autant plus un enfant qui lui a coûté plus cher. Or, chaque pécheur est le fils des larmes de Marie. C'est à cause de lui qu'elle se tenait au pied de la croix, toute douloureuse. Et puis, il y a des saints qui nous disent « Une ville de refuge nous a été ouverte, dit Saint Bernard. Le sein d'une mère s'en trouve pour abriter les pécheurs. » Et Saint Alphonse, Marie, c'est l'espérance d'être désespéré. Et avant lui, Saint Bonaventure parlait ainsi à Marie. « Vous accueillez, ô mère, avec votre maternelle affection, le pécheur méprisé de tous, et vous ne le laissez partir qu'il n'ait ce malheureux échappé au terrible jugement qui le menaçait. » Marie, dit Saint Augustin, c'est l'espérance de ceux qui n'en ont plus. C'est le port assuré de ceux qui ont fait naufrage. Et l'oraison de la messe de la Vigile de l'Assomption invite officiellement les fidèles à croire au rôle de Marie, refuge des pécheurs. En voici le texte. Que la prière de la Mère de Dieu fasse agréer de votre clémence, ô Seigneur, les vœux que nous vous offrons, afin que Marie intercède en toute confiance auprès de vous, pour nous, pécheurs. Nos mamans nous ont transmis une belle prière. La prière qu'on dit être composée par Saint Bernard et qu'elles avaient apprise elles-mêmes de leur maman. Qui ne sait par cœur, le souvenez-vous. Et s'il est vrai que les prières, universellement répandues dans l'Église, ne peuvent nous induire en erreur, lex orandi, lex credendi, on peut être sûr que Marie est le refuge des pécheurs. Le souvenez-vous, c'est la prière des gens qui vont à Marie quand ils ne savent plus où aller. Elle fait appel à la réputation de Marie de bien recevoir tout le monde. Souvenez-vous, ô très pieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné de vous. Alors, je cours à vous, gémissant sous le poids de mes péchés. Ô Mère du Verbe, ne rejetez pas mes prières. Écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Marie n'attend que cette prière pour se donner la joie d'offrir à Dieu la conquête d'un grand pécheur. Il y a, hélas, toute une catégorie de pécheurs, de ces bien-aimés pécheurs, qu'elle ne peut couvrir de son manteau maternel, ceux qui ne la prient pas. Ils ne la prient pas parce qu'ils ont honte de venir revoir leur mère. Je voudrais ici, ô Marie, m'oublier moi-même pour vous prier pour tous les apostats, laïcs ou prêtres, qui ont trahi leur serment et qui vivent loin de vous, leur mère, loin de la maison paternelle. Ils sont bien coupables, sans doute, mais ils sont encore bien plus malheureux. Ils restent tous, toujours, vos enfants. Ils ne sont pas heureux parce qu'ils ne peuvent pas se défaire de cette impression de tendresse dont, un jour, vous les avez enveloppés. Et s'il est vrai, ô mère, que vous pouvez tout, ayez pitié de ces brebis qui ont laissé le bercail, mécontents d'eux-mêmes, mécontents des autres, mécontents de Dieu parce qu'ils ont trahi l'amour. Ils vous donneraient tant de joie, ces pauvres prêtres, si vous les voyiez revenir, ces pauvres apostats, s'ils rentraient au bercail. Nous sommes bien malvenus, pécheurs que nous sommes, pour plaider pour eux. Ne nous regardez pas. N'écoutez, ô mère, que votre cœur. Ayez pitié de vos enfants qui errent dans la nuit. Souvenez-vous, ô très pieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire que l'un de vos pauvres enfants ait été abandonné de vous. Pouvez-vous, ô mère, écouter, sans être attendri, les prières que leur maman de la terre, que leur petite sœur vous adresse en pleurant?
Merci, Père Dragon. Demain, en la fête de la Toussaint, le Père René Garceau vous parlera de la communion des saints. Écoutons maintenant un cantique à la Sainte Vierge, chanté par les élèves du Collège Saint-Ignace de Montréal. C'était l'émission de Radio Sacré-Cœur. La Ligue du Sacré-Cœur vous présente son émission quotidienne à Radio Sacré-Cœur. Écoutez la voix de l'apostolat de la prière et dites souvent sa devise indulgenciée, Cœur sacré de Jésus, que votre règne arrive. Auditeurs, en cette fête de la Toussaint, voici d'abord une note d'actualité sur un saint non encore canonisé. À Palai, dans les Indes, ont eu lieu récemment, sous la présidence du cardinal Tisserand, les premières réunions d'un tribunal ecclésiastique relatives au procès de béatification d'une religieuse indienne, sœur Alphonsa de Marie Immaculée. La béatification de cette sœur viendrait renforcer la thèse missionnaire, déjà soutenue au XVIIIe siècle par les jésuites, selon laquelle il est parfaitement légitime de faire appel à des éléments empruntés à des spiritualités non chrétiennes. L'une des raisons de la popularité de Sœur Alphonsa est qu'elle appartient à l'Inde non seulement par le sang, mais aussi par l'âme. Les 15 années de sa vie monastique chez les Clarisses furent marquées, au milieu des pires souffrances physiques, par sa volonté de porter à leur perfection l'idéal traditionnel de l'hindouisme. Aussi, la reconnaissance par l'Église des vertus héroïques de Sœur Alphonsa ne saurait manquer d'avoir dans tout l'Hindoustan un retentissement considérable et d'avoir ainsi une portée missionnaire sans précédent. Ajoutons donc cette intention à toute celle de l'apostolat de la prière. Divin cœur de Jésus, je vous offre par le cœur immaculé de Marie les prières, les œuvres, les joies, les souffrances de cette journée en réparation de nos offenses et à toutes les intentions pour lesquelles vous vous immolez continuellement sur l'autel. Je vous les offre en particulier pour l'intention de ce mois, pour l'esprit de pénitence et pour l'intention missionnaire, les Indiens et les Noirs de l'Amérique du Sud et tout spécialement pour la béatification de Sœur Alphonse Maria. Chers auditeurs, nous avons raison de nous réjouir aujourd'hui. N'est-ce pas un peu notre fête anticipée, puisqu'aussi c'est celle de tous ceux qui jouissent du bonheur du ciel et nous espérons bien y rejoindre les parents, les amis que nous fêtons aujourd'hui. Dans sa causerie, le père René Garceau nous explique ce dogme consolant qu'on appelle la communion des saints. Le père René Garceau, de la Compagnie de Jésus.
La Toussaint, fête de la solidarité de tous les chrétiens. De tous les chrétiens vivants de la vie du Christ, leur Rédempteur et leur chef. De ceux qui luttent dans l'attente de l'union glorieuse avec lui. De ceux qui, souffrant, achèvent la pleine purification qui leur permettra cette union. De ceux enfin qui, purifiés et saints, la possèdent et en jouissent. Solidarité réelle et mystérieuse, qui a son fondement dans le dogme du corps mystique. Solidarité dont saint Paul avait pris conscience sur le chemin de Damas, alors qu'il partait en guerre contre les sectateurs du Christ. Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul de demander, « Mais qui êtes-vous, Seigneur? Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Et Paul comprit que bien qu'en lutte contre les seuls chrétiens, il persécutait aussi celui dont il se recommandait, car celui-là était leur chef, leur tête, et que persécuter les membres, c'est aussi et combien plus persécuter la tête. Le Christ et les chrétiens, le Christ et la jeune Église, c'était donc tout un corps mystique et réel, animé d'une même vie, aspirant à une même destinée. L'humble fille des champs qu'était Jeanne d'Arc avait compris cette solidarité des membres et de la tête. Elle qui déclarait devant ses juges confondus, « L'Église et Jésus-Christ, c'est tout un. » Voilà le mystère de la communion des saints que nous célébrons aujourd'hui. C'est une brillante solennité dans la famille catholique. L'Église n'y honore pas tel ou tel saint comme elle fait la plupart des jours de l'année, mais tous les saints à la fois. C'est qu'en effet, il est relativement petit le nombre des élus à qui l'Église peut offrir un hommage particulier, à cause de leur multitude innombrable. Et puis, tous les saints ne sont pas inscrits au martyrologe. Ils sont en très grande partie demeurés inconnus, ou leur souvenir s'est effacé de la mémoire des hommes. Or, parmi ces ignorés, il y en a qui ont également le mérite des grands saints, et qui ne jouissent pas d'une gloire inférieure à celle des martyrs et des plus illustres confesseurs de la foi. D'autres sont dans un degré inférieur de mérite, mais quelle que soit la mesure de leur perfection, tous les élus, même de l'ordre le moins élevé, sont au ciel en possession d'une gloire et d'un bonheur ineffables. Tous sont dignes de notre confiance et méritent les honneurs du culte chrétien. Telle fut l'idée qui présida à l'établissement de cette fête, dont voici l'origine. Il y avait à Rome un temple magnifique, bâti peu de temps avant la naissance de Jésus-Christ par Agrippa, gendre et favori d'Auguste, et consacré par lui à tous les dieux, d'où lui vient son nom de Panthéon. Ce superbe édifice, l'un des plus grands de Rome, fut purifié et dédié solennellement par Boniface IV, l'an 607, à la Sainte Vierge et à tous les saints martyrs. C'est ce qui lui a fait donner le nom de Notre-Dame des martyrs ou de Sainte Marie aux martyrs. On l'appelle aussi la Rotonde, parce qu'il a la forme d'un demi-globe. Boniface, d'ailleurs, en faisant cette dédicace, suivait les intentions de Saint Grégoire le Grand, son illustre prédécesseur. Il fit transporter dans la nouvelle église une quantité considérable d'ossements de martyrs pris dans les cimetières des environs de Rome, et en mémoire de cette dédicace, une fête fut instituée qui se célébrait le 12 mai. Le siècle suivant, vers l'an 1631, le pape Grégoire III consacra une chapelle dans l'église de Saint-Pierre en l'honneur du Sauveur, de la Sainte Vierge, des saints apôtres, de tous les saints martyrs et confesseurs et de tous les justes qui reposaient sur la terre. Et il établit une fête dans le même but. C'était, à proprement parler, la fête de tous les saints. Elle passa insensiblement de la chapelle de Saint-Pierre à l'église de Sainte-Marie aux martyrs, et elle fut fixée au 1er novembre. Dès le 9e siècle, elle fut célébrée universellement dans tout l'Occident. Les souverains pontifes, pour la rendre plus vénérable, voulurent que les fidèles s'y préparent par un jour de jeûne et soient célébrés avec octave. Voilà le beau mystère que nous célébrons aujourd'hui. Elle donne lieu à une solennité d'un cachet spécial, plein de grandeur. C'est une affirmation éclatante du dogme de la communion des saints, et particulièrement de l'union réelle, de la liaison étroite qui existe entre les élus et les chrétiens de la terre. Affirmation continuée dans les fêtes du 2 novembre, où l'Église militante proclame hautement l'union qui existe entre elle et l'Église souffrante. C'est le grand partage d'une seule et même société avec le Père, et avec Jésus-Christ, son Fils. Rendons grâce à Dieu le Père de ce qu'en nous éclairant des lumières de la foi, il nous a rendus dignes de participer à l'héritage des saints, nous dit saint Paul. Ce que nous avons de commun avec les élus, c'est la vérité et la charité. La même clarté divine illumine nos intelligences, le même amour divin remplit nos cœurs, le même don de Dieu, trésor des trésors, enrichit nos âmes, la grâce de Jésus. Je crois à la communion des saints. Ce mystère proposé à notre foi s'impose aussi à notre vie. Il nous procure de grands bienfaits, il faut s'en souvenir. Dès l'instant où l'eau du baptême a coulé sur notre front, nous sommes entrés dans cette immense société de secours mutuel qui est l'Église. Nous pouvons bénéficier du capital social qu'elle a accumulé pendant des siècles par l'anéantissement de la rédemption et la souffrance de la croix, par les mérites de la Vierge Marie, l'héroïsme des martyrs et des vierges, la foi des confesseurs et des saints. Dans ce trésor, nous pouvons puiser pour réparer nos pertes et celles de ceux que nous aimons. Il nous impose aussi de grands devoirs. Cette solidarité qui nous enrichit nous oblige. Elle nous impose de la mieux connaître et de la mieux vivre. Dans un corps, il n'y a pas de membre inutile. Travaillons à notre propre perfection. Élevons-nous pour élever les autres. Prions les uns pour les autres.
Merci, Père Garceau. Demain, 2 novembre, le Père Fernand Bédard nous rappellera qu'il n'y a pas que de la tristesse dans cette fête des morts. En ce jour de la Toussaint, écoutons un cantique sur le ciel, chanté par les frères de l'instruction chrétienne de la pointe du lac.
C'était l'émission de Radio Sacré-Cœur.